Quelles sont les premières histoires dont vous vous souvenez? Celles que vous racontez vos parents au chevet de votre lit d'enfant? Celles que vous lisiez? Celles que vous avez entendues même si elles ne vous étaient pas destinées? Celles que vous inventiez? C'est une question que je me suis posée à force de raconter. Vous savez que je lis encore aujourd'hui dans mon lit. Et si, rien de très original, les premières histoires étaient nées de cette position couchée? Et si j'essayais de retrouver, par je ne sais quel fantasme régressif, la joie procurée par tous les livres passés dans mon lit? Lieu, disait Georges Perec, de la menace informée. Lieu des contraintes, espace du corps solitaire encombré de ses harems éphémères, espace fort clos du désir, lieu improbable de l'enracinement, espace du rêve et de la nostalgie oedipienne. Dans ce livre assez incroyable qui s'appelle Espèce d'espace, il raconte « C'est couché à plat ventre sur mon lit que j'ai lu 20 ans après, l'île mystérieuse et j'ai ri dans l'île. Le lit devenait cabane de trappeurs ou canot de sauvetage sur l'océan en furie ou baobab menacé par l'incendie, tente dressée dans le désert, en fractuosité propice, à quelques centimètres de laquelle passaient des ennemis bredouilles. J'ai beaucoup voyagé au fond de mon lit. J'emportais pour survivre des sucres que j'avais volés dans la cuisine et que je cachais sous mon traversin. Ça grattait. La peur, la terreur même était toujours présente, malgré la protection des couvertures et de l'oreiller. Vous, quelles sont les premières histoires dont vous vous souvenez?
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui nous raconte des histoires. Heureux lauréat, je le disais, du prix Astrid Lindgren, l'équivalent du prix Nobel de la littérature jeunesse. Certains de ses livres comme L'enfant océan, La rivière à l'envers ou encore La ballade de Cornebique sont devenus des classiques. Ce matin, il est venu nous parler de récits, de mots et d'imagination. Bonjour Jean-Claude Mourleva.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Quelles ont été vos premières histoires? Vous vous souvenez?
Ah oui, oui, oui. Alors, quand vous dites position allongée, histoire, ça me propulse directement loin en arrière. Mais ça n'était pas des histoires lues, c'était des histoires qu'on se racontait. Et moi, moi je suis le cinquième de six d'une fratrie, sororie de six, et on a partagé longtemps une même chambre avec mon plus jeune frère. Et on ne lisait pas le soir, mais on se racontait des histoires.
Mais qu'est-ce que vous vous racontiez?
Mais on les inventait, on les inventait.
Vous vous souvenez?
Alors,
un
l'un
peu
disait une phrase, l'autre en disait une autre.
Des cadavres exquis.
Oui, oui, une sorte de cadavre exquis, oui. Et bon, on cherchait des histoires pour rire. On avait envie de rire. Et on riait tellement que ma mère finissait par débarquer. Elle disait, c'est fini les deux, là, vous avez vu l'heure qu'il est.
Oui, parce que vous êtes auvergnat, ce qui nous fait un point commun et ce qui explique cela. Dans quelle mesure diriez-vous, c'est intéressant, Jean-Claude Mourleva, qu'une histoire n'existe jamais mieux que lorsqu'elle est racontée à haute voix?
Ben, parce qu'il y a les intentions dedans,
il y a le ton,
il y a le rythme, il y a la musique, bien sûr, c'est ça, une histoire, c'est le texte, bien sûr c'est le texte, mais c'est le rythme. Et voilà, et dans ce souvenir que je vous racontais là, je me souviens que un soir, et ça je jure que c'est vrai, un soir l'un de nous deux a commencé en disant ça serait un petit hérisson qui, et l'autre a continué en disant qui voudrait aller chez le coiffeur. Et je me suis toujours rappelé ce début. Je sais plus ce qu'on a inventé après, mais et que ça m'avait percuté, parce qu'un petit hérisson, bon, mais qui voudrait aller chez le coiffeur? Il y a quelque chose. L'imagination s'enflamme. Et 50 ans plus tard, j'ai repris ça. Et ça a donné mon Jefferson.
Donc ça veut dire que quelque part, ces histoires racontées ont eu plus d'importance que celles que vous avez lues, dans la mesure où elles ont fait de vous déjà un écrivain?
Je crois, ouais, je crois. Alors, ces histoires-là racontées en position allongée, comme vous disiez avec mon frère, mais d'une façon beaucoup plus large, avec tous mes autres frères et sœurs et mes parents, à table surtout. Je me rappelle beaucoup les conversations à table, à plus qu'animées, où on se coupe la parole, on essaie d'être inventif.
Raconter des histoires, c'est mentir aussi, tout simplement.
C'est pas mentir, c'est inventer. C'est mentir, mais annoncer à l'avance, quoi.
Et vous savez, quand on dit quelqu'un, il raconte des histoires, celui-là.
Oui.
Ça veut dire qu'il ment.
On peut dire aussi, il raconte des histoires.
Vous voyez, tout est dans le ton.
Voilà, exactement, tout est dans le ton.
Mais alors, les livres, quand est-ce qu'ils sont entrés dans votre vie, Jean-Claude Mourleva?
Ils sont entrés petit à petit par mes frères et sœurs aînés, donc, et puis le tout premier, c'était en classe de sixième, j'étais dans un internat, où ça s'est très mal passé pour moi d'ailleurs, et ce livre m'est tombé dans les mains, c'était le premier hiver, et moi j'étais mal, j'étais malheureux, j'avais envie de rentrer à la maison. Je pensais que je serais avec mes frères et sœurs qui seraient là avec moi dans cet internat, où j'allais les rejoindre. Mais en réalité, pas du tout. J'étais isolé. Et ce premier livre qui m'est tombé dans les mains, c'était Robinson Crusoe. Et c'était une adaptation pour la jeunesse, bien sûr, à la première personne. Je suis né en l'an 1632 dans la ville d'York.
Donc c'est la voix de Robinson.
C'est la voix qui sortait du livre et qui venait me parler à moi, pas à quelqu'un d'autre, à moi. C'était une voix qui sortait du livre. Ça, je l'ai jamais oublié. Je l'ai relu 3 fois de suite. Me disant, c'est le meilleur livre du monde, il est sans doute inutile que j'en lise d'autres. Depuis, j'en ai lu quelques-uns.
Vous vous souvenez d'images ou vous ne vous souvenez que de sa musique, justement, dans Robinson Crusoe?
Je me souviens de sa voix, de solitude à solitude, la sienne à la mienne, et puis de toutes ces petites choses. J'ai réussi à attraper une chèvre sauvage, j'ai planté du seigle, j'ai semé du seigle, etc., etc.
Et qu'est-ce que ce livre vous a appris de ce que c'était que de raconter une histoire, Jean-Claude Mourleva?
Je crois que je le savais déjà, petit. Ouais. Et j'ai eu la chance, enfin je ne vais pas aligner toute ma famille, là. Mais mes grands-parents auvergnats, donc, étaient... Ma grand-mère était très inventive. Sa langue maternelle était le
bougnat.
Le patois auvergnat, on disait le patois. En fait, c'était l'occitan d'Auvergne. Et elle a appris le français petite, et mon grand-père aussi. Mais leur langue maternelle, elle était le patois. Et malgré ça, elle avait un français très précis. Et elle souvent charriait mon grand-père, elle se moquait de lui parce qu'elle parlait bien, lui un peu moins. Et ensuite, c'est passé à l'étage en dessous par ma mère, qui a toujours eu quelque chose de littéraire en elle et dont le rêve secret était de devenir institutrice. Ah. Et puis, ça n'a pas été possible. Et là, maintenant, quand j'ai eu le prix, là, il y a 2 mois... On m'a dit, parce que j'ai perdu mes parents maintenant, depuis assez longtemps, et on m'a dit, tu aimerais qu'ils soient là pour leur dire. Je dis, non, pas spécialement, j'ai rien à leur prouver, ils ne m'aimeraient pas plus ni moins. Ouais. Et le temps passe, et je me dis maintenant, oh, j'aimerais bien quand même, j'aimerais pouvoir leur dire à ma mère et à mon père ce qui se passe.
Qu'est-ce que c'est une bonne histoire, en fin de compte? Vous avez fini par le savoir?
Oui et non. Je veux dire des banalités. Une histoire, c'est l'histoire qui vous interpelle, qui vous fait dresser l'oreille, tourner les pages et on fait chut, attends, je veux entendre ce que cette personne dit, ça m'intéresse, ou je veux tourner les pages, attends, j'ai fini mon chapitre.
C'est ça qui provoque une excitation.
Mais
en fait,
il faut que ce soit intéressant. Alors ça paraît stupide, mais parce qu'on peut être intéressant de 1000 façons. Quoi. Il faut qu'elle soit intéressante, cette d'histoire.
Et qu'est-ce que peut une histoire, surtout, particulièrement lorsqu'elle tombe dans l'oreille d'un enfant? Est-ce qu'elle peut consoler, l'histoire?
Ah oui, je crois qu'elle peut consoler, oui. Ouais, tout à fait. Moi, elle me console pendant que je l'écris, et j'ai l'espoir qu'elle puisse consoler aussi ceux qui la lisent, oui.
C'est intéressant, de quoi la lecture, les histoires, vous ont-elles à certains moments consolé, Jean-Claude Mourleva?
Dans cette année sombre de 6e, où j'étais tellement malheureux dans cet internat, ça m'a consolé, Robinson Crusoe, bien sûr. Et par la suite aussi, c'est un refuge. Ça met une distance, la littérature, les histoires, la fiction, met une distance entre vous et la dureté du monde, quoi. Et ça donne du sens aussi, ça donne... Oui, moi j'y ai recours en tout cas, et j'essaie d'offrir ça à mes lecteurs, à mes lectrices.
Vous me voyez venir évidemment, ma
non,
question,
non,
pourquoi
non.
Vous écrivez?
Où? Ah d'accord.
Vous le savez?
C'est peut-être que je sais faire de mieux, je chante mal, j'ai découvert ça tard, moi, à la quarantaine, et je me suis dit, ouais, tu aurais dû commencer avant, mon garçon, parce que tu te débrouilles pas si mal. Et là, depuis, ma vie a basculé. Moi, il y a avant et après l'écriture, hein, c'est une évidence. Mais pourquoi? La question était pourquoi j'écris?
Ouais.
Pour enchanter un peu ma vie, le monde, transformer la réalité qui peut être dure, complexe, pas claire, en quelque chose de plus... Y mettre du sens, de la cohérence, de la beauté.
Vous savez qu'il y en a une qui n'enchante personne dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, Jean-Claude. C'est évidemment la culture et son actualité qui passe son temps à se lamenter. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 30 juin?
J'adore lire, je lis beaucoup.
Grande fête estivale du livre jeunesse, Partir en livre se déploie dès aujourd'hui dans toute la France, en tout 2800 ateliers, 751 auteurs et illustrateurs et plus de 1000 librairies et bibliothèques impliquées. La manifestation entend initier les plus jeunes aux joies de la lecture, élevée grande cause nationale par le président Macron il y a 15 jours. Alors parmi les initiatives les plus alléchantes, un parc d'attractions littéraires à la Courneuve, une kermesse lettrée itinérante à Bordeaux ou encore des enquêtes livresques à mener dans les rues de Lyon dans le cadre du festival partenaire Quai du Polar qui commence le 2 juillet. Milliard est la manière, 30 ans presque exactement après sa sortie le 10 septembre 1991, le morceau culte de Nirvana inspiré par le déodorant de la petite amie de l'époque de Kurt Cobain, Smells Like Teen Spirit, continue de battre des records. Il vient ainsi de dépasser le milliard d'écoutes sur Spotify, devenant la première chanson du groupe grunge à passer ce cap symbolique. Lead single de l'album Nevermind, le morceau allait incarner le mal-être adolescent de toute une génération et propulser la formation d'Aberdeen vers un succès foudroyant, fracassant et fatal pour Kurt Cobain, classic.
La maison vous offre une douzaine supplémentaire. Elles sont excellentes, n'est-ce pas?
Ah, mais elles sont bonnes, je vous remercie.
Ma commande, s'il vous plaît.
L'acteur belge Fernand Guillot, c'était un samedi, vient-on d'apprendre, il avait 88 ans, grand bonhomme et gueule du cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle. Il avait tourné aux côtés des plus grands, de Belmondo à Coluche, en passant par Bourville, Piccoli ou Serrault. Homme d'écran comme de théâtre, où il avait tenu l'affiche de L'Avare, Tartuffe ou Le Dindon, il restera l'impayable inspecteur Benet de L'Aile ou la Cuisse de Claude Zidi, parmi une filmographie de plus de 200 entrées. Respect. Et enfin mercredi, de pluie toujours, cinéma d'amour, car aujourd'hui dans les salles qui célèbrent la fête du cinéma, on suit les sœurs de Yamina Benguigui dans leur douloureuse quête d'identité entre la France et l'Algérie, incarnée par Isabelle Adjani, Maïwenn et Rachida Brakni. On dit oui à Teddy, la nouvelle livraison mordante des frères Boukerma qui propose une variation décalée et moderne du mythe du loup-garou. Et sinon, on se laisse envoûter par le beau, de l'or pour les chiens, première réalisation sensible et sensuelle de la jeune cinéaste Anna Cazenave-Cambet. Allez! Et le romancier Jean-Claude Mourleva, heureux lauréat du prix Astrid Lindgren, qui est un genre de Nobel de littérature jeunesse, je le disais, ce qui est un peu ironique, dans la mesure où cette catégorie de littérature jeunesse, elle vous a toujours laissé un petit peu dubitatif, pour ne pas dire pantois, Jean-Claude. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
En fait, quand j'écris, j'ai bien conscience que mes romans, ils vont se retrouver dans les mains de jeunes lecteurs, jeunes lectrices. Mais donc, je pense à eux, mais pas seulement quoi. Je pense, j'écris pour des êtres humains lecteurs quoi, avec à l'idée que on va sans doute me lire aussi à 12-13 ans.
Mais pourquoi est-ce qu'on continue d'insister sur cette distinction entre littérature jeunesse et littérature tout court?
Je ne sais pas. Ça m'a exaspéré, ça m'a énervé, ça m'a indifféré. Je sais pas si on dit comme ça.
Vous avez tous les droits ici.
Donc je passe par tous les états avec cette affaire. Parfois je trouve ça injuste parce qu'il y a vraiment. Alors je parle plus de moi là. J'aurais pas la prétention. Il y a des chefs-d'œuvre en littérature de jeunesse, des chefs-d'œuvre qui vont devenir des grands classiques. Mais en France, il y a quand même cette culture de séparation entre la littérature dite adulte générale et jeunesse. Donc on en souffre hein, nous les créateurs de littérature de jeunesse.
Ouais. Qu'est-ce que c'est un enfant pour vous ?
Oh, mon Dieu. Un enfant, c'est mes enfants. Je crois que c'est mes enfants, même s'ils ont un peu grandi maintenant. J'ai du mal à le. C'est dans le ventre plus que dans la tête. J'ai pas de définition toute prête pour ça.
Et comment vous leur parlez aux enfants, vous, à la fois à travers vos livres, mais aussi lorsque vous vous adressez directement à eux, puisqu'il vous arrive souvent d'aller à la rencontre de vos jeunes lecteurs.
Oui. Alors, si c'est un enfant tout petit, qu'est-ce qu'on fait, même physiquement, on s'accroupit pour être à hauteur, quoi. On fait ça, c'est spontané, parce qu'on veut. Qu'ils ne soient pas écrasés par nous.
C'est d'autant plus intéressant que votre démarche littéraire n'est pas celle-là. Il ne s'agit pas de s'abaisser et de s'accroupir quand vous écrivez.
Et de se mettre à hauteur,
Quand même.
Quand même, oui. Mais sans renier du tout l'ambition d'intensité, ni d'inventivité. On a toutes les libertés, ça peut être des choses assez terribles. Tous les sujets sont autorisés, tout est dans le traitement. Quoi.
Oui, c'est la question que je me posais. Qu'est-ce qui vous surprend toujours quand vous les rencontrez, Jean-Claude Mourleva, ces enfants? Quelles questions inattendues est-ce qu'il vous pose?
Oh, c'est des questions, puis des réflexions aussi. Hein. Oui, oui.
Par exemple
c'était l'année dernière, je crois, un garçon qui devait arriver, de quatrième, je pense, donc il a 14 ans, quelque chose comme ça.
Un grand.
Après la rencontre, il m'a dit « Merci, monsieur, parce que vous nous avez parlé comme à des vraies personnes. » Comme à des vraies personnes. Je dis, ouais, c'est ça. J'essaie de vous parler comme à des vraies personnes.
Et vous voyez que vous en avez une de définition de l'enfant. C'est une vraie personne.
C'est une vraie personne.
C'est déjà quelque chose. Et vous, quelles questions est-ce que vous vous posez en ce moment, toujours, d'ailleurs?
Alors, la question, moi, éternelle, douloureuse, parfois, c'est quel sera mon prochain roman et de quoi est-ce que je vais parler, et sans doute que je vais jamais y arriver, sans doute que ça sera jamais aussi bien que ce que je viens de faire. Là, je viens d'en achever un, là, ça date de quelques jours, donc je suis un peu euphorique, comme à chaque fois, mais je sais que la question va très vite venir avec l'angoisse qui va avec, et maintenant.
Mais ce sont des questions vertigineuses, puisqu'écrire, c'est peut-être toujours une façon de poser des questions aussi, donc c'est-à-dire que vous répondez à votre question, mais vous en posez d'autres en écrivant.
Oui, et puis tout est remis à niveau à chaque fois. On se retrouve au point zéro, et même plus que zéro, parce qu'on est attendu. Au début, on est dans l'innocence, et vas-y. Voilà, les titres qui ont le plus grand succès, pour moi, ça remonte à presque une vingtaine d'années. La rivière à l'envers, l'enfant océan, coup sur coup d'ailleurs, une sorte d'état de grâce, là. Ouais. Et on essaie... Alors, c'est une comparaison que je donne parfois. Je trouve qu'on est un peu comme des joueurs de cartes qui jouent éternellement en rêvant de la main magique. Quoi. Et elle n'existe pas. Mais il continue. Et moi, j'essaie à chaque fois de faire en sorte que le prochain, ce sera le roman que j'ai toujours voulu écrire. Et je n'y suis jamais tout à fait arrivé.
On ne peut pas bluffer dans ce jeu de cartes?
On peut pas bluffer, là. Non, on peut pas bluffer, sinon on est puni par les lecteurs, les lectrices, oui.
Quel genre d'enfance est-ce que vous avez eu, Jean-Claude Mourleva?
J'ai eu une enfance heureuse, jusqu'à l'âge de 10 ans, avec mes frères et sœurs. Il y avait un bouillonnement incroyable dans notre trou, là, puisqu'on vivait au fond d'un ravin, j'ai envie de dire, où il y avait notre ferme et le moulin de mon père qui était meunier. On était tous les six, il y avait une force d'attraction extraordinaire pour tous les enfants du village qui venaient là. L'été, on faisait les Jeux Olympiques derrière chez nous dans le pré. Non, c'était une
entre
belle
deux histoires de hérissons.
Oui.
Et puis effectivement, cette période d'internat que vous racontez dans un livre autobiographique qui s'appelle « Je voudrais rentrer à la maison », j'ai l'impression que ces années, elles ont quand même inoculé en vous un désir pour l'évasion, un désir pour le voyage, pour la liberté. Quelle quête est-ce que ça a été? Quelle quête est-ce que c'est toujours pour vous?
Oui, j'ai toujours eu ça intensément quand j'étais jeune ado, justement dans cet internat, le désir de soulever le couvercle de la marmite, quoi, de voir le monde. Et dans mon cas, c'était assez contradictoire parce que j'étais un garçon plutôt timide, réservé, peu bavard. J'ai changé, j'ai appris, je me suis soigné.
C'est là que vous avez enseigné, donc vous étiez bien obligé.
Oui, c'est ça. Puis je fais du théâtre aussi, surtout après. Et donc j'étais comme ça, très réservé. Et en même temps, j'avais envie de bouffer le monde, quoi. J'avais envie d'aller au bout du monde, ce que j'ai fait un peu plus tard, quand j'ai eu 20 ans, avec le sac à dos, comme on devait faire à l'époque.
Mais revenons au départ de cette trajectoire. Quand vous avez été pendant une dizaine d'années dans l'éducation nationale, en tant que prof d'allemand, quelle liberté est-ce que vous avez trouvé dans ce métier ?
J'ai aimé ce métier, j'ai adoré être prof. Hein. Je m'en suis un peu lassé et j'ai eu envie de faire autre chose. Mais j'ai été un prof heureux. Hein.
Lassé pour la situation des enseignants en France ? Ou lassé
de toutes les contraintes qui y sont liées, de ponctualité,
de répétition,
de rigueur. Un inspecteur est venu me voir un jour, il a rien compris, quoi. Il a rien compris. Il m'a dit c'est bien, mais j'y comprends rien. Ce que vous faites, c'est un petit peu ça. Soyez un petit peu plus rigoureux tout de même, s'il vous plaît.
Dans quelle mesure est-ce que vous avez prolongé ce métier en écrivant?
En écrivant, j'ai surtout prolongé le théâtre. J'ai fait du théâtre plus longtemps que j'ai enseigné, en fait. Le théâtre a été une grande partie de ma vie. Donc, c'était un prolongement dans l'invention. Et puis, j'ai pu renoncer à... en théâtre, j'ai été un peu comédien et beaucoup metteur en scène. Comme comédien, j'étais pas très bon, je crois. J'étais un comédien moyen.
Mais la littérature n'éduque pas, comme puisque vous étiez enseignant.
Oui.
Ça n'est pas une de ses fonctions d'éduquer.
Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Mais lorsque j'écris, même si je sais que je vais être lu par des enfants, j'ai pas vraiment de, comment dire, de, a priori du moins d'intention pédagogique. Je veux juste raconter une histoire. Et cette histoire, bon, elle transporte tout ce à quoi je tiens, à quoi je crois, et à mes convictions, et bien sûr, J'espère les transmettre, mais ça n'est pas un objectif a priori. Je veux pas être lourd, quoi. Comme dans Jefferson, il est question de la condition animale. J'essaie de pas trop être lourd, quoi, parce que sinon, c'est pas un livre sûr. Et c'est un livre où il est question.
Parce que sinon,
de...
c'est pas intéressant, tout simplement, quand on est trop lourd. C'est ça. C'est on est d'accord. On va en reparler, hein. Vous nous connaissez, de jeunesse, mais aussi d'imagination, de mots de théâtre, juste après un souffle d'insouciance et de fête, Kids, par MGMT en 2007 sur l'album Oracular Spectacular. Vous êtes sur France Inter avec Jean-Claude Mourleva, on est mercredi, et vous écoutez quoi? Boomerang, évidemment.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Bon alors, c'est-à-dire que physiquement, on est quelque part entre le juste seigneur médiéval, l'humble sommité ecclésiastique et Nicolas Hulot. Le cheveu gris blanc, coupé court, l'œil épervier, le sourire entendu avec son petit pull bleu. Il est hilar ce matin, le romancier Jean-Claude Mourleva, invité de Boomerang. Lauréat donc du prestigieux prix suédois Astrid Lindgren, pour revenir donc sur un parcours dans lequel l'écriture n'intervient finalement qu'assez tardivement, on l'a compris. Au fond, quand est-ce que vous avez commencé à écrire, Jean-Claude?
À la quarantaine. Ouais, c'est tard, hein, parce que je savais pas que je savais le faire, en fait, c'est ça, la raison. Et puis, c'est venu du théâtre, une fois de plus, un ami qui m'a demandé de lui écrire des contes pour qu'il les joue sur scène. C'était un conteur. Donc, je lui ai écrit 5 contes inédits, et alors, je passe, ça sera ennuyeux. 3 de ces contes ont finalement été publiés, alors que ça n'était pas mon
Donc,
objectif.
Vous êtes devenu écrivain malgré vous, en fait.
D'une certaine façon, je dis, mais c'est fou, il paraît que c'est si difficile d'être publié. Moi, je l'ai même pas voulu, je le suis. Donc, je vais pousser le bouchon un peu plus loin.
Mais si on revient au théâtre, quelle découverte est-ce que ça a été le théâtre pour vous? Comment ça s'est passé?
Ça a commencé du temps où j'étais prof, parce que j'animais l'atelier théâtre du collège, j'ai adoré ça, et petit à petit ça a grignoté cet intérêt-là pour le théâtre, j'ai fini par démissionner et m'y consacrer complètement. J'ai adoré ça, mais d'abord je me suis fourvoyé en essayant d'être comédien, et je me suis ensuite trouvé en étant metteur en scène, et je me suis surtrouvé en commençant à écrire.
Mais c'était l'art du clown à l'époque?
Oui. Moi, j'ai adoré ça, l'art du clown, parce que pour cette dualité là entre vous savez le clown blanc et l'Auguste.
Bah, quel genre de clown est-ce que vous étiez vous,
vous? Est-ce que vous voyez qui était Buffo au Howard Button?
Oui, bien sûr.
Mais c'était un petit peu ce genre-là. C'est un clown de théâtre en fait. Moi, je suis jamais allé dans un cirque, par exemple. Le mot clown interpelle vraiment les gens. Ils me voient tout de suite dans un cirque, alors non.
Je pense à ce livre adapté en film, Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué.
C'est ça.
J'étais si important. Quel genre de clown vous avez campé sur scène? Celui-là?
Celui-là, oui. Un clown muet qui s'appelait Geduld.
Ce qui veut dire muet en allemand.
Patience, ça veut dire patience en allemand. Ouais. Je savais pas que ma patience consisterait à attendre d'avoir 40 ans pour commencer à écrire à l'époque.
Ben c'était ironique.
Oui.
Et pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas parler, ce clown, Geduld?
Ah, voilà. Ben parce que il y avait un monde en lui, un monde prisonnier, comme ça sans doute. Et il était transparent. J'essayais de le rendre transparent. On voit bien ce qu'il veut. On voit bien ce qu'il espère. Mais il n'arrive pas à le dire, quoi. C'était peut-être mon cas pendant une grande partie de ma vie.
C'est la question que j'allais vous poser.
Ah, désolé.
Vous parliez de vous.
Oui. Ouais. Ben, on ne fait que ça. Même quand on invente des fictions qui sont très loin de soi, dès lors qu'on raconte, on parle de soi. Hein.
Ça vous arrive de ne pas trouver les mots?
Alors, ce qui m'est le plus difficile, c'est de trouver la musique du roman que je vais commencer à écrire, sa tonalité. Ça, c'est difficile. La forme. Et une fois que j'ai ça, le scénario, je le trouverai toujours. Et les mots, je suis pas un extraordinaire virtuose de la langue française, mais bon, je connais quelques mots de notre langue. Et je sais à peu près. Je sais conduire la voiture, quoi. La voiture, mais je ne saurais pas démonter le moteur.
Mais alors, qu'est-ce que vous faites quand la musique ne vient pas, quand vous ne trouvez pas la voix?
Eh bien, j'écris pas. Ça peut durer des semaines, des mois, un an. Il m'arrive souvent de passer un an sans écrire parce que je n'arrive pas à démarrer, quoi. Et une fois que ça démarre, c'est un peu mystérieux. À ce moment-là, il y a une jubilation, et plus l'histoire avance, plus elle s'enrichit d'elle-même, plus les personnages prennent de l'épaisseur, et plus on vit dans son histoire, quoi. Comme je dis souvent, on mange avec, on dort avec, on fait les courses avec, quoi. Ça devient une folie.
Et puis ça
j'adore ça.
Et puis ça apporte de la lumière aussi.
Ça apporte de la lumière à moi, l'écrivant, et par avant, je sais à ceux qui vont la lire. Alors, autant j'ai le trac avant de commencer à écrire l'histoire, autant je n'en ai aucun quand le livre va apparaître, juste qu'il soit dans les mains des gens et qu'ils me disent qu'ils l'ont aimé.
Vous savez, c'est un texte qui répond un peu à cette question que vous nous avez écrite ce matin, et j'aimerais que vous nous le lisiez, si vous le voulez bien.
Bien sûr.
Jean-Claude Mourleva.
Il m'est arrivé, pendant le premier confinement, quelque chose de très doux et de très encourageant. Je vous explique. J'ai fait des études de germaniste après le bac. Et j'ai bien sûr appris que l'immense Goethe, avant de mourir, avait prononcé ces deux mots à la fois énigmatiques et bien dans son style, « mehr Licht », en français « plus de lumière ». Et chacun s'est demandé, mais qu'a-t-il voulu dire exactement? Était-ce « je vais mourir, j'ai peur des ténèbres, ouvrez donc la fenêtre et faites entrer la lumière, que je la vois encore un peu avant de partir » Un ordre, donc, donné aux personnes qui se trouvaient dans la pièce. Ou bien j'y suis déjà, de l'autre côté, et figurez-vous qu'ici, et ça va vous surprendre, il y a plus de lumière. Ce n'était donc pas un ordre, mais un commentaire. Une troisième hypothèse, à laquelle j'ai eu la faiblesse de penser, connaissant l'immense écrivain qu'il était, il avait peut-être longuement réfléchi à ses derniers mots. Il n'avait pas l'intention de se manquer, il lui fallait quelque chose d'inoubliable, quelque chose de bref, de puissant, mais qui comporterait un mystère. Bien. J'ai donc vécu un demi-siècle avec à la fois cette certitude, il a dit « mehr Licht », et ce questionnement, qu'est-ce que ça signifie? Jusqu'à ce jour mémorable, pendant le premier confinement, en faisant des recherches pour mon roman en cours, je tombe sur un document qui bouleverse ma petite culture générale. Johann Wolfgang von Goethe, en mourant, n'a pas du tout dit « Merlicht », mais « Gib mir dein Pfötchen ». Il l'a dit à sa belle-fille, qui a pris soin de lui jusqu'au bout, « Gib mir dein Pfötchen ». En français, « Donne-moi ta petite patte ». J'ai trouvé ça tellement mieux que ce prétentieux « plus de lumière ». Je me suis dit, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend après la mort, ou plutôt si, je pense que rien ne m'attend. En revanche, j'espère que le moment venu, il y aura près de moi quelqu'un à qui je pourrai dire « Donne-moi ta petite patte ».
Ah, c'est super. Merci Jean-Claude Monleva, merci d'être venu faire un tour dans Boomerang, merci pour ce texte aussi. Je rappelle encore une fois que vous êtes le premier récipiendaire français du prix Astrid Lindgren dans 2021, l'occasion de se replonger quand même dans l'intégralité de votre œuvre, de l'Enfant Océan à Jefferson, en passant par les deux tomes de La Rivière à l'Envers, ou encore La Ballade de Cornebique ou Le Combat d'Hiver. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
Montre-moi ton point sensible.
Sensible, Malik Djoudi sur France Inter. C'est vrai que ça touche mon point sensible.